Eh bien, nous poursuivons notre série sur l'Église et aujourd'hui j'aimerais que nous allions dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Éphésiens 5 verset 22. On va lire ce passage. Hein. Vous allez voir combien... L'Église est, de fois, l'Église est mentionnée dans ce passage. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dans l'Évangile, Jésus un jour a posé la question aux disciples, il, quelque sorte, il a dit « À quoi pourrais-je comparer le royaume de Dieu ?»« À quoi pourrais-je comparer le royaume de Dieu ?» Et il a pris beaucoup d'images dans les Évangiles, et Paul en rajoutera d'autres. On sait que l'Église est comparée à un troupeau, hein, un troupeau dont il est le berger. L'Église est comparée à un temple dont Jésus est la pierre d'angle. Il a dit d'ailleurs « Je bâtirai mon Église ». Paul le répétera dans cet épître aux Éphésiens d'ailleurs. On peut lire chapitre 2, versets 20 et 21, où l'Église est comparée ici à une construction, à un édifice. Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà, l'Église comparée à un temple. L'Église est comparée quelque part à un pied de vigne aussi, dans Jean 15, hein. Nous sommes les sarments, nous sommes les branches, mais Jésus, c'est le cep, hein, c'est le pied. L'Église est comparée à un corps aussi. Un corps, dans 1 Corinthiens 12, on le voit aussi dans Éphésiens ici, dont Jésus est la tête. Mais plus spécialement, et c'est ce qu'on voit ici, l'Église est comparée à une épouse, dont Jésus est le mari. Jésus est l'époux, c'est ce qu'on vient de lire. Et dans ce passage d'Éphésiens, ce qui est frappant, c'est combien Paul entremêle ou entrelace ses exhortations au couple, que ce soit à l'homme ou à la femme, avec des parallèles constants à Jésus-Christ et à l'Église. 8 versets sur 12 font mention de l'Église. Donc, il y a un parallèle très très fort ici. Et j'aimerais qu'on voit trois choses ce matin. D'abord, l'Église est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, l'Église est aimée par le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, l'Église est renouvelée par le Seigneur Jésus. L'Église est soumise au Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose qui est mentionnée ici à partir du verset 22. On voit très bien que Jésus, c'est la tête, c'est le chef de l'Église. C'était déjà dit au chapitre 1, on va le relire, chapitre 1, versets 22 et 23. « Dieu a tout mis sous ses pieds en parlant de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus, c'est le chef de l'Église. Sachant cela, est-ce qu'on peut dire que l'Église catholique romaine est soumise à Jésus-Christ ? Il faut dire non, hein, parce que le chef de l'Église catholique romaine, ce n'est pas Jésus-Christ. Moi, sur Terre, c'est le pape. C'est un homme qui est présenté comme le chef de l'Église, même s'il faut mention de Jésus-Christ. La vie et les doctrines de l'Église romaine ne démontrent pas une obéissance à Jésus-Christ. Parce que quand on dit que l'Église est, que la femme est soumise à son mari ou que l'Église est soumise à Christ, ça veut dire que l'Église, elle obéit à l'enseignement de Jésus-Christ. Or, l'Église romaine n'obéit pas à l'enseignement de Jésus-Christ. Si c'était le cas, je serais prêtre aujourd'hui et pas pasteur. N'oublions pas les persécutions, on a parlé de l'Église persécutée. Aujourd'hui encore, il y a des catholiques qui persécutent et des protestants. Au Mexique, le Mexique, si je me trompe, doit figurer dans la liste des pays qui persécutent les chrétiens. Imaginez ça, un pays catholique qui persécute à mort des chrétiens évangéliques, des chrétiens protestants. C'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce que l'Église protestante qui marie des couples de même sexe obéit à Jésus-Christ ? Elle n'est pas soumise à Jésus-Christ. Est-ce que l'Église protestante qui nomme des femmes pasteurs obéit à Jésus-Christ ? Non plus. On pourrait parler de toutes les sectes, de toutes sectes qui se disent chrétiennes, toutes sectes chrétiennes qui se réclament de Jésus-Christ, mais en fait, elles sont séparées de la tête, elles sont séparées de Jésus-Christ. Ce sont des cadavres sur le plan spirituel. Il n'y a pas de vie spirituelle, parce qu'elles ne sont pas soumises à la tête. Elles ont divorcé de Christ. Elles ont beau se réclamer de Jésus-Christ, qu'est-ce que la scientologie a à voir avec Jésus-Christ ? Église de scientologie, c'est même pas une église. Un divorce, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et bien, c'est le cas de toutes ces églises qui sont séparées de Christ, finalement. Et là, donc, quand on relie le couple chrétien avec le couple Jésus-Christ et l'Église, il faut dire aussi que quand c'est un couple chrétien qui divorce, c'est dramatique. Parce que c'est toute l'image même de Christ et de l'Église qui est brisée. Pensons-y, c'est dramatique. Alors Paul, ici, dans ce passage, il s'adresse d'abord aux femmes. Parce qu'il leur demande quelque chose de difficile pour beaucoup, c'est la soumission. Soumission. Soumise à son mari. Mais en faisant le parallèle, comme l'Église est soumise à Christ, justement, il montre combien c'est important, combien c'est un témoignage, c'est un modèle, c'est un exemple. La soumission. Je dois dire que dans mon ministère, un des points les plus difficiles a été le travail avec les femmes. J'ai eu plus de problèmes avec les femmes qu'avec les hommes par rapport à la soumission. J'ai eu affaire à des femmes avec des fortes personnalités dans le ministère qui voulaient parfois un peu commander le pasteur. Qui voulaient que le pasteur fasse ce qui leur plaisait. Elles voulaient un peu commander, diriger. J'ai pas mal souffert avec ça. Mais la Bible nous dit aussi, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14, 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14, c'est ça, le problème c'est ça, c'est que voilà, si nous voulons suivre la Bible, il faut accepter ce que la Bible dit, même si c'est pas facile, même si nous ne comprenons pas tout. Or, la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission, encore. Je ne lui permets pas d'enseigner ou de dominer sur l'homme, et de dominer sur l'homme. Mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Donc, ce principe de soumission de la femme à l'homme, Paul nous renvoie à l'origine, à la Genèse, quand justement c'est la femme qui a pris l'initiative, qui a voulu diriger l'homme finalement en mangeant de ce fruit et en entraînant finalement son mari et l'humanité dans la chute. Donc, par rapport à cela, il y a ce principe que c'est l'homme qui doit enseigner, c'est l'homme qui a l'autorité dans l'Église, bien sûr, mais aussi dans son foyer. Donc, soumise, ça veut dire obéissante, mais ça exige aussi pour l'Église maintenant de connaître la Bible. Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas demander d'être soumis à Jésus-Christ, d'obéir à Jésus-Christ, si on ne sait pas ce que Jésus-Christ attend de nous. Nous devons connaître la parole de Dieu, savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il exige, et qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il attend de l'Église, quel est son projet pour l'Église. Eh bien, relisons Éphésiens chapitre 5 et verset 27. Où il est dit que le but de Jésus-Christ, c'est de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est le but de Jésus-Christ. C'est ce qu'il attend. Donc, dans la soumission de l'Église, tout doit être fait pour atteindre ce but, hein, dans l'obéissance, le but d'une Église sainte, une Église pure, une Église sans tache, ni ride. L'Église, donc, est soumise à Jésus-Christ, mais l'Église est aimée par Jésus-Christ. À partir du verset 25, hein, il y a ce beau passage qui nous parle de « Marie, aimez vos femmes, votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Oh, si nous réalisions combien Jésus nous aime. » Il y a un cantique qui dit « Oh, combien Jésus nous aime. » De prendre conscience de l'amour de Jésus. Ici, il est rappelé tout ce qu'il a fait. Verset 25. Il s'est donné lui-même pour elle. Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour nous, par amour, pour nous sauver. Il est dit au verset un peu plus haut, hein, c'est le un peu plus bas, hein, on va remonter, verset 23, pardon. Il est dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Jésus est le sauveur, il est notre sauveur. Il s'est donné, il s'est sacrifié. Et puis si on revient au verset 26... Hein, il est dit qu'il a purifié l'Église, il a lavé par l'eau de la parole, par son sang. Donc il nous purifie par son sang, nous dit Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier, etc. Et puis un peu avant, il est dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est le sang de Christ qui nous purifie, l'Église est purifiée par le sang de Christ, continuellement. Mais la suite du verset nous dit qu'il nous lave aussi par l'eau de la parole. Il a lavé l'Église par l'eau de la parole, jour après jour. C'est quelque chose qui est présenté ici au passé, mais c'est quelque chose qui continue à se faire continuellement. C'est-à-dire c'est quelque chose de quotidien, je dirais, avec ou d'hebdomadaire, avec les activités de l'Église. La fréquentation des réunions de l'Église est essentielle car elle nous expose à la parole de Dieu. Elle nous expose à la Bible et à son enseignement. Un chrétien qui ne vient pas à l'Église, il a beau lire la Bible chez lui, il n'est pas exposé de la même manière à la parole de Dieu. D'abord parce que tous les jours, nous sommes salis par l'enseignement du monde, par les péchés du monde. Les médias, même les réseaux sociaux, la télé, tout cela est souvent sous le contrôle, hein, du prince de ce monde, n'est-ce pas ? Il cherche à nous détourner de Dieu, à nous salir, à nous faire douter. Donc nous avons besoin de l'Église pour être sanctifiés, hein, pour être lavés. Le but, c'est de la conduire à la sainteté, hein, il dit, de la sanctifier. Et je crois que nous nous sanctifions les uns les autres aussi, au contact les uns des autres. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous étions comme ça. J'ai ramené ces deux pierres de la montagne, vous savez. Voilà à quoi nous ressemblons, vous voyez. C'est sympa, mais je veux dire, parfois, c'est blessant. On est blessant, hein. On n'est pas encore complètement sanctifié. Et c'est vrai que parfois, le contact les uns avec les autres est peu rugueux. Hein, c'est un peu difficile, ça peut faire mal parfois. Mais voilà, le Seigneur, vous savez ce qui arrive avec ces pierres, pardon, avec ces pierres, c'est que se détachent de la montagne, elles vont être entraînées par un torrent peut-être, voilà, hein, petit à petit, elles vont être roulées, voilà, l'une contre l'autre, donc ça se frotte, c'est bien se frotter les uns aux autres, hein. Et puis dans l'eau du torrent, l'eau de la parole ici, voilà, la parole de Dieu. Et voilà, après un long parcours, hein, qu'est-ce qu'on trouve ? Ah, on trouve des galets. C'est mieux là. Hein. Même, voyez. Voilà. C'est tout à fait différent. Hein. L'importance du contact les uns avec les autres, excusez-moi, et du contact avec la parole de Dieu, c'est la sanctification. On devient doux, on devient poli. Voilà. Pour un jour, voilà, être une église glorieuse, hein, sainte. Il est dit que le Seigneur, il prend soin de nous, hein, aussi, hein, quand on lit les versets suivants. Verset 29, « Personne n'a jamais détesté son propre corps. » L'Église, c'est le corps de Christ, comme l'épouse, c'est le corps de Marie, il est ici. « Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. » Le Seigneur nourrit l'Église, il le nourrit à travers la parole de Dieu, à travers l'enseignement, c'est important de fréquenter les activités de l'Église. Et il en prend soin, il prend soin de nous, Seigneur, et plein d'attention à notre égard. L'église locale, c'est le lieu privilégié de l'enseignement, n'est-ce pas ? Éphésiens 4, verset 11, on va relire ce verset, où il est dit que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, ou comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, etc., etc. Donc, Dieu, le Seigneur, a donné des pasteurs, des bergers, des conducteurs, des enseignants pour former les chrétiens, pour les édifier, pour éviter, verset 14, que nous ne soyons des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, dans les manœuvres d'égarement. Ainsi, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Voilà, c'est notre verset du mois, hein. Apprenez ce verset. L'article 212 du Code civil nous dit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Et 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est intéressant, hein, hein. L'Église est une communauté aussi, voilà. On l'appelle une communauté. Pouvons-nous douter de la fidélité du Seigneur ? Non. De son secours ? De son assistance ? Non. Voilà. Donc la balle est dans notre camp, hein. C'est à nous d'être fidèles voilà, au Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, il nous aime, il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous sanctifie, il nous soigne, il nous nourrit. Hein? Troisième chose, l'Église est renouvelée par Jésus-Christ. Verset, on revient au chapitre 5, verset 27, le but donc c'est de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, évidemment, une église sans tache, une église sainte, irréprochable, ça nous renvoie à ce qu'on a vu, hein, cette sanctification, le fait de se frotter les uns aux autres, et dans la parole de Dieu, dans ce torrent qui est la parole de Dieu, hein, qui nous façonne, qui nous lave, qui nous polit. Mais je vais relever juste une expression ici. Je vais l'interpréter peut-être différemment de ce que vous pensez, mais c'est une église sans tache ni ride, une église qui n'a pas de ride. Quand on parle de ride, on pense voilà, aux années qui passent, hein. Les années qui passent, le vieillissement. Paraît-il que tant que les cellules de notre corps se renouvellent, nous ne vieillissons pas. Pareil, ça dure jusqu'à 20 ans, à peu près, à partir de 20 ans. Attention, plus de 20 ans, on commence, voilà, paraît-il, à vieillir. Les cellules se renouvellent moins, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de cellules qui meurent. Alors que nous avons été créés pour vivre éternellement, hein. Au départ, nous aurions pu vivre éternellement. Mais le péché, bien sûr, nous a rendus mortels, et donc nous vieillissons. Extérieurement, parce que, regardez ce beau verset de 2 Corinthiens 4:16, qui nous dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur, notre corps se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Le chrétien, il a un corps comme tout le monde, mais il a aussi une âme, un esprit, un être intérieur qui se renouvelle justement dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. On peut dire que si nous vieillissons extérieurement, nous rajeunissons intérieurement. Nous pouvons rajeunir en quelque sorte intérieurement. Et donc, pour être sans rides, une église doit être constamment renouvelée. Constamment renouvelée. Par quoi? Qu'est-ce qui renouvelle une église? Eh bien, ce sont des conversions et des nouvelles naissances, mes amis. Une église qui ne voit pas de nouvelles naissances, qui ne voit pas de conversions, eh bien, elle commence à prendre des rides, à vieillir. À la limite, il y a des églises qui disparaissent à un moment donné parce qu'il n'y a plus de conversion, il n'y a plus de nouvelle naissance. C'est pour ça que c'est essentiel qu'une église locale, elle ait le fardeau de l'évangélisation, qu'elle ait la vision d'amener des âmes au Seigneur, qu'il y ait des conversions, que ce soit des enfants ou que ce soit des seniors, il faut qu'il y ait constamment un renouvellement dans l'église, n'est-ce pas? Que ce soit donc évangélisation dans la rue ou évangélisation de cette salle, hein, comme samedi prochain avec les enfants. On peut dire que les enfants du couple Jésus-Christ-Église, ce sont les âmes sauvées. Ce sont les âmes sauvées. Hein. Dieu peut aussi... Dieu renouvelle une église, c'est flagrant. Hein, quand vous avez des nouveaux convertis dans une église, ils apportent souvent leur fraîcheur et leurs ailes. C'est souvent eux qui vont vous dire on va évangéliser, il faut aller évangéliser. Écoutez, je viens de découvrir un message tellement extraordinaire, mais qu'est-ce que vous restez assis là? Il faut aller le dire à tout le monde. Ils ont un enthousiasme qui renouvelle l'Église, et ça fait du bien, on a besoin de cela. Parce que parfois, avec les années, on s'installe, on dit on est bien ensemble, voilà, on est confortable. Et les nouveaux convertis, ce que je me souviens toujours... début de ma vie chrétienne, voilà, après un moment, ben oui, j'ai commencé à perdre certaines choses, et puis il y a eu des nouvelles converties dans l'église. C'était une jeune femme. C'était pas l'évangélisation, mais c'était la prière. Parce que c'est pareil aussi, hein, les nouveaux convertis, ils ont à cœur de prier, hein, souvent. Hein, mais c'est important la prière. Voilà. Il y avait une réunion d'hommes qui priaient, qui se réunissaient chaque semaine, et je n'avais pas vraiment vu l'importance, ou j'avais perdu cette habitude, et un jour elle m'a interpellé, elle m'a dit, mais... Tu vas pas à la réunion de prière des hommes? C'est les hommes, ils priaient toutes les semaines. Hein. Elle m'a secoué là, hein, m'a secoué. Hein. J'ai pris l'habitude après d'aller à la réunion de prière des hommes. Voilà, ça m'avait renouvelé, ça m'avait encouragé. Hein. Donc c'est important. Dieu peut aussi renouveler une église locale par l'apport de chrétiens. Hein, l'apport de chrétiens qui viennent d'ailleurs, hein, voilà, qui aménagent et qui se mettent à servir. Je pourrais nommer beaucoup de personnes dans cette église qui ont apporté un renouveau dans cette église, cette assemblée. Cette église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un apport continuel aussi personne nouvelle qui venait, qui voilà, qui apportait voilà une nouvelle ferveur, de nouvelles idées. C'était important aussi. On en a parlé la semaine dernière. Donc une église sans rides, voilà, comme ça je l'ai interprété, hein, évidemment, c'est sûr que c'est d'abord une église qui est sans péché, une église pure, sanctifiée. J'ai une image que j'hésite à donner, mais je vais le faire quand même, parce que ça me touche de près, mais concernant ce renouvellement, c'est l'image du cancer, le cancer... qui a touché ma femme à deux reprises, le myélome, le cancer du sang. Le traitement de cette maladie est particulier. C'est un traitement par autogreffe, de même pour l'os, ce sont des greffes. Hein, c'est une autogreffe, c'est-à-dire qu'on prélève sur la personne des cellules souches, hein, comme on dit, c'est des jeunes cellules, voilà, parce que ces jeunes cellules qui viennent d'être créées ne sont pas affectées par la maladie. Elles ne sont pas touchées par le cancer encore. Donc elles sont prélevées, sont congelées. Après, la malade subit une très forte chimio, c'est pas, avant qu'on lui réinjecte ces cellules souches qui sont saines, voilà, qui ne sont pas malades. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout de suite, ces cellules, voilà, elles vont dans... là où elles doivent aller, elles régénèrent la moelle, le sang, n'est-ce pas? Et la personne, elle est renouvelée entièrement. Et on a vécu ça, donc, avec mon épouse à deux reprises. Ce renouvellement complet par ces cellules nouvelles. Et je pensais un peu à ça avec une église, n'est-ce pas? C'est ce fait que, voilà, l'apport de nouvelles cellules qui peut complètement renouveler une église, c'est pas une image parfaite, mais c'est l'idée que vraiment on a vu combien ça peut renouveler, régénérer, guérir hein, aussi, hein. Mettre en rémission voilà, une personne. Et Seigneur, il peut faire cela aussi dans la vie d'une église, une église qui peut parfois être tombée dans des traditions, dans des habitudes, dans la routine, dans le sommeil spirituel. Et merci Seigneur pour ces nouvelles cellules qui viennent parfois, c'est donc des nouveaux convertis ou des personnes qui s'ajoutent et qui apportent leur fraîcheur. L'Église est renouvelée par Jésus-Christ. L'Église, donc voilà, elle est soumise à Jésus-Christ, ça c'est le point de départ, c'est important. Elle est aimée par Jésus-Christ, sanctifiée, purifiée, renouvelée. Et elle est donc... représenté ici-bas, quelque part, par le couple chrétien. Donc, gardez ça aussi l'esprit, c'est important. Si vous êtes un couple chrétien, vous êtes une image de l'Église et de Jésus-Christ. Très important. Le monde regarde à vous. Et c'est vrai que quand les couples chrétiens durent comme cela, aujourd'hui, dans un monde où rien ne dure, où il y a tellement de divorces, où il y a des couples qui se font et qui se défont, eh bien, c'est un puissant témoignage, hein, aussi de Jésus-Christ et de son Église. Que Dieu nous aide à vivre cela en tant que communauté, de vivre cela en tant que couple. Il y avait une réunion de couple la semaine dernière, voilà, une activité importante pour l'Église que nous avons à cœur. C'est un privilège d'avoir une réunion de couple. Nous allons prier maintenant, avant un dernier cantique. Seigneur, merci pour le fait que tu as choisis cette belle image du couple. Toi, tu es le chef, tu es le mari, et nous sommes l'épouse, Seigneur, soumis à toi, sauvés par toi, sanctifiés par toi, renouvelés par toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, que nous puissions comprendre combien tu nous aimes, Seigneur, être conscients de cet amour infini dont nous sommes l'objet, et en retour, Seigneur, de nous soumettre à toi de bon cœur, Seigneur, de chercher à faire toujours ta volonté, toujours ce qui t'est agréable, toujours ce qui te plaît, Seigneur, dans nos vies, dans notre foyer, dans notre travail, dans l'Église. Ô Seigneur, nous te le demandons en ton nom précieux. Amen. Amen. Alors, un dernier cantique.